Il est 9h, le journal avec Lauriane Avare. En 24 heures, 430 projectiles lancés depuis Gaza vers Israël. La situation s'envenime au Proche-Orient. Les détails dans un instant. Le Panama, ce n'est pas seulement les Panama Papers. Sortir le pays de cette image, c'est la mission du prochain président élu aujourd'hui. Enfin, prendre des mesures concrètes sur l'environnement, c'est l'espoir de la France pour le G7 version écolo. Les ministres de l'Environnement sont réunis à Metz jusqu'à demain. De nouvelles tensions et des violences autour de la bande de Gaza depuis 24 heures maintenant. Des centaines de projectiles s'abattent sur Israël. De son côté, l'armée israélienne a riposté et continue de bombarder l'État hébreu. Un Israélien a été tué et au moins 6 Palestiniens. Une situation, Marine Vlaovic, qui pourrait encore plus s'envenimer.
Le bras de fer à coups de tirs de roquettes palestiniennes et de raids israéliens se poursuit jusqu'à ce matin. En 24 heures, près de 430 projectiles ont été lancés depuis Gaza sur le sud et le centre d'Israël. La plupart ont atterri dans des zones inhabitées. Mais un Israélien de 58 ans a été touché par l'une de ces roquettes à Ashkelon, une ville voisine de la bande de Gaza. Il a succombé à ses blessures après avoir été transféré à l'hôpital. De son côté, l'armée israélienne continue de bombarder massivement l'enclave palestinienne, des frappes de représailles qui ont ciblé 200 positions militaires et sécuritaires du Hamas et du djihad islamique depuis hier matin. Des bâtiments à étages situés dans les quartiers résidentiels de la ville de Gaza ont été entièrement détruits. Selon le Hamas, une fillette de 14 mois et sa mère ont été tuées dans leur maison au cours d'un raid, une version contestée par l'État hébreu. Les factions palestiniennes menacent d'étendre leur puissance de feu, tandis que le cabinet de sécurité israélien restreint doit se réunir ce matin. Les écoles resteront fermées aujourd'hui dans la bande de Gaza, ainsi que dans les communautés israéliennes voisines. Selon les médias israéliens, qui citent des sources égyptiennes, les négociations menées par l'ONU et l'Égypte pour sortir au plus vite de cet engrenage de la violence sont actuellement dans l'impasse.
Marine Vlaovic, correspondante pour RFI et France Culture au Proche-Orient. L'inquiétude et le flou au Bénin, là où sont portés disparus deux touristes français depuis le 1er mai. Un corps a été retrouvé dans le parc national de la Pendjari, zone où se sont égarés les deux Français et leur guide. Mais pour le moment, rien n'indique qu'il s'agit du corps d'une de ces trois personnes. Une voiture calcinée aurait également été retrouvée sur place. Des identifications sont en cours. Écartés du pouvoir et arrêtés, trois pontes de l'ancien régime algérien ont été interpellés par la police. Saïd Bouteflika, l'ancien puissant conseiller et frère du président déchu Abdelaziz Bouteflika, et puis deux anciens patrons des services de renseignement. À la manœuvre de ces arrestations, le général Ahmed Gaïd Salah, présenté comme le nouvel homme fort de l'Algérie. Retravailler l'image nationale, c'est aussi l'objectif du Panama, où se déroulent aujourd'hui les élections présidentielles. Les Panaméens doivent élire le nouveau président pour 5 ans. Le sortant Juan Carlos Varela n'est pas autorisé à se représenter car la Constitution ne permet pas de réaliser 2 mandats consécutifs. Alors celui qui sera élu aura une mission délicate, celle de redorer l'image du Panama, ternie par le fameux scandale des Panama Papers, Nathanaël Charbonnier.
Qu'importe le nom du prochain président, qu'il vienne de l'opposition de gauche ou qu'il soit issu de la droite au pouvoir actuellement, l'homme connaît déjà sa feuille de route, faire que le nom Panama ne rime plus avec évasion fiscale. Il faut dire que le scandale des Panama Papers a laissé des traces. À l'époque, un groupe d'une centaine de journaux avait rendu public plus de 11 millions de documents confidentiels, mettant en cause des centaines de personnalités, acteurs, hommes d'État, milliardaires. Tous étaient soupçonnés d'avoir cherché à cacher leur argent. Aujourd'hui, 3 ans après, le pays a tout fait pour se remettre dans le droit chemin. Des lois ont été votées qui pénalisent l'évasion fiscale. C'est devenu un délit, mais voilà. L'image du Panama dans le monde est dramatiquement dégradée, si bien que plus personne ne souhaite investir dans le pays. La suspicion règne et la confiance est rompue. Conséquence, il n'a été question que de cela dans la campagne électorale et les candidats ont tous promis de tout faire pour redonner au pays son aura international.
Au Sri Lanka, 2 semaines exactement après l'attentat qui a tué 259 personnes revendiquées par l'État islamique, Et bien sur place, la situation n'est toujours pas retournée à la normale. Aujourd'hui, des églises encore resteront fermées, pas de messe dominicale, ce qui touche particulièrement la communauté chrétienne. Le témoignage de Menaka Indrakumar, c'est une jeune protestante de Colombo, au micro de notre correspondant régional Sébastien Farsi.
C'est un moment vraiment très triste. L'église à laquelle je vais est normalement ouverte 24 heures sur 24. C'est donc la première fois qu'elle est fermée. Du coup, je ne suis pas allée à l'église depuis le vendredi saint. Ce qui est très triste, car même si on se dit que Dieu est partout, aller à l'église avec d'autres croyants est quelque chose de bénéfique. Malheureusement, le cardinal a recommandé de ne pas y aller à cause de la crainte des attaques contre des rassemblements. Même les bouddhistes qui ont une fête importante ce mois-ci ont réduit leur célébration. Donc nous allons prier où nous pourrons, certainement chez des amis croyants. Mais cela ne veut pas dire que nous allons changer notre mode de vie, car si nous le faisions, cela signifierait que ces terroristes sont plus forts que nous.
En France, le ramadan débute demain lundi 6 mai, annonce hier du Conseil français du culte musulman et de la Grande Mosquée de Paris. Le ramadan qui est considéré comme un signe d'extrémisme par le Parti communiste chinois, ça se passe dans la province du Xinjiang en Chine et cela focalise l'attention de la communauté internationale. Un reportage sur place dans le journal de 10h. Un sommet sur l'environnement à Metz. Les ministres de l'écologie du G7 sont réunis là-bas jusqu'à demain pour préparer le G7 général à Biarritz. Ce sera au mois de juin. Alors tout le week-end à Metz, un grand village éco-citoyen accueille le public avec des conférences, des ateliers. Mais Sandy Dauphin, à quoi va vraiment servir cette réunion de ministres ?
En plus des pays du G7, la France a invité une dizaine de ministres d'autres pays, comme le Mexique ou les îles Fidji. La ville de Metz accueille donc un mini-sommet consacré à la planète. Depuis qu'Emmanuel Macron a lancé en juin 2017 son Make Our Planet Great Again, la France ne rate pas une occasion de montrer sur la scène internationale qu'elle est un pays moteur sur les questions climatiques et sur la préservation de la biodiversité. Elle espère que ce G7 environnement ne débouchera pas sur une simple déclaration de bonnes intentions, difficile à garantir, compte tenu de la position souvent discordante des États-Unis sur les sujets environnementaux. Lors des précédents G7 au Canada et en Italie, il n'avait pas été possible d'aboutir à un communiqué final signé par tous sur le climat, en raison justement de la position américaine. Pour éviter cet écueil, Paris veut inciter les participants à créer des coalitions autour de thématiques spécifiques comme la lutte contre la déforestation ou la préservation des grands singes ou des coraux, pour que ce G7 environnement aboutisse à des engagements concrets.
Et les ministres de l'environnement du G7 auront la primeur du tout dernier rapport des Nations Unies consacré à la biodiversité. Il leur est présenté aujourd'hui. C'est le rapport de l'IBES qui dresse un constat catastrophique de l'état de la nature. Il sera rendu public officiellement demain à Paris. Ce rapport, c'est un peu l'équivalent du GIEC de la biodiversité qui sera signé par des experts de 130 pays. Il recense l'ensemble des pressions exercées par l'être humain sur la faune, la flore et il préconisera normalement des mesures pour les décideurs à titre de recommandation. Mais ces dernières peuvent-elles avoir un impact si elles sont non contraignantes ? Lara Mercier a posé la question à Jean-François Sylvain. Il est le président de la Fondation pour la recherche sur la biodiversité, co-auteur de la rédaction de ce rapport.
C'est vraiment une question qui agite beaucoup de gens, des chercheurs, des penseurs, etc. Il y a certainement des aspects contraignants qui sont nécessaires, ne serait-ce que par les règlements. Règlement sur les plastiques, règlement sur les pesticides, la pollution plastique tue, les plastiques tuent. Là, il faut qu'il y ait aussi une réglementation relativement stricte qui oblige tout le monde à se mettre dans une réduction de l'usage de produits polluants, de plastique, etc. Après, la question, c'est est-ce qu'une certaine politique des petits pas reste pertinente ? Est-ce qu'il faut ou pas répondre à certains souhaits de voir se mettre en place des éléments de gouvernance beaucoup plus drastiques. Nous, récemment, à la FRB, nous avons organisé une réflexion sur ce thème où les principaux acteurs ont tout de même mis en avant la nécessité que la démocratie soit préservée. Essayons aussi de faire avec les outils dont on dispose, parce que aller vers des systèmes un peu coercitifs, on sait qu'on, quand on y rentre, on ne sait pas trop quand on en sort.
Jean-François Sylvain, le président de la Fondation pour la recherche sur la biodiversité, au micro de Lara Mercier. Le temps pour aujourd'hui, eh bien, c'est un peu mieux qu'hier, moins d'averses, sauf de la pointe normande à l'Île-de-France. Sur le reste du pays, c'est plus sec et plus ensoleillé. Le vent, par contre, soufflera fort en Méditerranée, jusqu'à 110 km/h. Encore des risques de chute de neige sur les différents reliefs. Pour les températures, ce matin, 10 à Paris et à La Rochelle, 13 à Nice, et pour la minimale, 3 degrés à Thonon-les-Bains en Haute-Savoie.